Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Il concède que cette tentative de synthèse qu'il fait est réalisée sur des données très fragmentaires et donc qu'il peut se tromper, qu'il a des vues personnelles qui peuvent influencer ce qu'il va dire, mais qu'aussi on manque de données pour raconter l'histoire exactement comme elle s'est passée. Mais on peut tout de même essayer de s'appuyer le plus qu'on peut sur ce que disent les sciences. Et le premier chapitre s'appelle « L'étoffe de l'univers ». Dans ce chapitre, il est question de l'évolution de la matière. Puis, il sera question de l'évolution de la vie. Puis, il sera question de l'évolution de l'homme parmi les êtres vivants. C'est donc un panorama extrêmement large qui se déroule comme un film et avec un vocabulaire qui est plus imagé que conceptuel. D'emblée, dans le chapitre sur l'étoffe de l'univers, Teilhard pose que la matière, l'unité de matière qui est l'atome à l'époque, a un dehors, matière, énergie, et un dedans. Et le dedans, c'est en germe le psychisme qui se développera plus tard. Vous voyez, le matérialisme de Teilhard est un matérialisme prévoyant. Si je veux faire émerger l'esprit à la fin, il faut que je le mette au début, sinon c'est illogique. Puis se déroule, c'est tout à fait dans l'esprit de Bergson. Et le nom de Bergson apparaît une ou deux fois, mais très rarement. Ah, j'ai découvert une chose. Vernadsky, quand il était à Paris, a eu un rendez-vous avec Bergson. Il a été voir Bergson et ils ont discuté tous les deux, une fois, d'après ce que j'ai trouvé. Donc Teilhard nous déroule une espèce de film, un film qui nous montre la formation de la Terre, qui nous montre d'abord la formation des grains de matière, puis sur la Terre, la formation des grains de vie. Les grains de vie, ce sont les cellules vivantes. Puis, au sein de la vie, la formation des grains de pensée. Et le grain de pensée arrivé à maturité, c'est la personne. La no-genèse, donc vous avez enchaîné l'une à l'autre, une géogenèse, une biogenèse, une psychogenèse, et la no-genèse est la quatrième étape de ce déroulement. Elle vient insensiblement, nous dit Teilhard, et c'est la genèse du phénomène humain global, c'est-à-dire du grain de l'humanité, de l'unité, de la cellule de l'humanité. Ce phénomène-là est en train de se produire. Teilhard dit qu'il peut prendre encore un million d'années pour s'achever, parce qu'il est dans les temps cosmiques, Teilhard. On a le temps. Et il nous dit que ce passage à la noosphère est insensible, et il exprime ça par une petite phrase qu'il répète: dans le monde, l'homme est entré sans bruit. L'homme est entré sans bruit, c'est-à-dire qu'il entre comme un être vivant, et puis dans l'homme se développe quelque chose qui ne fait pas de bruit au début, et puis qui, à un moment donné, va affleurer. Alors, vu du dehors, ce qui apparaît avec l'homme, c'est le fait que le paysage terrestre change complètement. C'est le fait que le roi a retenu et dont on a parlé tout à l'heure. Teilhard rapporte une phrase de l'abbé Breuil, d'ailleurs, de l'abbé Breuil, qui aurait dit « Nous venons de lâcher les dernières amarres qui nous retenaient encore au néolithique. » Le néolithique, ce sont déjà des primates. Hein, et nous sommes en train de nous détacher du néolithique. Il y a quelque chose d'autre est en train d'apparaître là. Teilhard cite aussi une petite phrase de Julian Huxley disant que l'homme, c'est l'évolution devenue consciente d'elle-même. Et au fond, c'est ça l'idée de Teilhard. L'homme, c'est l'évolution devenue consciente d'elle-même et devenue autoproduite. L'homme prenant la responsabilité de l'évolution, prenant la direction des opérations. Alors, ce qui donc est en train d'apparaître, est en train d'émerger, Teilhard le qualifie comme un esprit de la terre par confluence naturelle des grains de pensée, je le cite, là ce sont ses expressions. Il n'emploie pas le mot mondialisation ni le mot globalisation, mais il emploie le mot planétisation. Maintenant, il y a pour Teilhard une distance entre les premiers ébats de l'homme sur la Terre, si on peut dire, des tribus qui se sont répandues sur la surface de la Terre, un peu à droite et à gauche, et puis la prise de la noosphère qui est une unification globale. Et comment est-ce que cela est conçu ? Ah, il nous parle d'une nappe pensante de dimension planétaire, tout ça ce sont des images, hein, une nappe pensante, un penser et un agir collectif, une collectivité harmonisée des consciences, une méga-synthèse, qu'est-ce que c'est ? Et comment est-ce que ça prend ? Là, l'explication la plus claire, ou l'essai d'explication de la manière dont ça prend, se trouve, d'après moi, dans le livre « La place de l'homme dans la nature », dans lequel Teilhard aborde la question de la surpopulation. Les tribus humaines se sont répandues sur la Terre, mais alors qu'on aurait attendu, dans le mouvement de l'évolution, une séparation et au fond la formation d'espèces différentes, en réalité, le monde humain a conflué et s'est resté une seule espèce. Et cette espèce s'est multipliée de façon considérable depuis un siècle. Teilhard connaît l'expansion démographique depuis la fin du XIXe siècle. Il parle d'un processus irrépressible et d'un processus qui est caractérisé par le fait que les individus renâclent à se laisser absorber dans le tout. C'est-à-dire, on n'aime pas la vie en ville, on n'aime pas être collés les uns contre les autres dans le métro, etc. On s'attendrait à ce que Teilhard considère la surpopulation humaine comme une catastrophe. Pas du tout. Ça a été mon étonnement quand je l'ai lu. Il dit, au contraire, c'est le commencement de la compression. La population humaine se multiplie sur un espace limité, elle va aller jusqu'à saturation dans cet espace limité. Et la compression que cela exerce va faire que les êtres humains seront vitalement forcés de s'arranger de la façon la plus économique pour subsister dans un espace réduit et en utilisant le moins d'énergie possible. Et, en un sens, c'est prophétique. C'est écrit au milieu du siècle. Cela nécessite, nous dit Teilhard, cet effort qu'on va faire, comprimer les uns sur les autres, cet effort qu'on va faire pour être plus ingénieux, pour survivre mieux, parce qu'on va trouver des trucs pour coexister en utilisant le moins d'énergie, le moins de place. Cela nécessite, dit Teilhard, un accroissement d'intériorité mentale, donc une amélioration du pouvoir d'invention. Je le cite encore, « La compression planétaire humaine contraint les hommes à l'ingéniosité. » À l'ingéniosité et à la coopération. À une coopération de plus en plus efficace. Bien sûr, il y a des résistances à cette compression et à cette nécessité de coopérer. Mais, nous dit Teilhard, il n'y a pas d'autre. Les gens, il nous dit, les gens vont être tentés de se mettre en grève. Je voulais citer ce passage-là. Comme des fils devenus. Je voulais citer, ça sort du phénomène humain. Comme des fils devenus grands, comme des ouvriers devenus conscients, nous sommes en train de découvrir que quelque chose se développe dans le monde au moyen de nous, peut-être à nos dépens. Le dernier siècle a connu les premières grèves systématiques dans les usines. Le prochain ne s'achèvera certainement pas sans des menaces de grève dans la biosphère. Donc, il y a des résistances, mais Teilhard nous dit il n'y a pas d'autre issue que vers le haut. C'est-à-dire, faites marcher votre intelligence, c'est la seule solution. Et l'issue vers le haut sera, d'après lui, que nous nous lions fonctionnellement en un vaste système organique. Et quand on lit ça, on se dit, ben c'est juste la fourmilière. Teilhard est en train de nous fourrer dans une grande fourmilière, où on sera compressé. Non, il nous dit, c'est... Cette communauté en formation sera une communauté inventive et après, je le cite encore, après l'invention privée fruit du tâtonnement solitaire, il y aura l'invention collective, résultat de la recherche totalisée. Et il nous parle d'une cérébralisation collective, d'une auto-cérébralisation de l'humanité, de groupes qui seront féconds dans l'invention technique ou scientifique ou toutes sortes d'inventions, la créativité politique, par exemple. Le groupe sera meilleur que l'individu et nous aurons plaisir à participer à ces groupes inventifs qui seront meilleurs que les individus tout seuls. Voilà la perspective de notre Teilhard, qui s'empresse de dire que, bien sûr, ce qu'il fait là, c'est de la conjecture. Il extrapole. Il peut très bien se tromper, mais lui qui est un paléontologue et qui a une vision élargie du devenir de l'espèce, c'est comme ça qu'il voit la courbe aller. Et il n'a fait que prolonger la courbe. Dans l'ouvrage, dans le petit article « La formation de la biosphère », dont les termes sont plus discrets que ce que je viens de citer, qui a été publié plus tard, dans ce petit article, on lit tout de même que « sous nos yeux, l'humanité tisse son cerveau ». Et le cerveau, c'est le groupe de travail, en somme. C'est le collectif, c'est le GIEC. J'ai parlé du GIEC la dernière fois. Eh bien, ça correspond tout à fait à la à la conception de Théia. C'est le groupe de travail international global qui fonctionne ensemble et qui ensemble donne de meilleurs résultats que les individus séparés. C'est le groupe qui réfléchit sur le réchauffement climatique, vous avez compris, le GIEC. Néanmoins, ce petit article sur la formation de la noosphère ajoute un élément qui n'est pas transparent dans les autres textes. En effet, on y lit « Sous nos yeux, l'humanité tisse son cerveau. Demain, il faudra qu'elle trouve son cœur. » Autrement dit, il y a un élément affectif nécessaire là pour que ça marche, cette prise de la noosphère. Et en réalité, Théiard, qui est un mystique, profondément mystique, Théiard a une interprétation religieuse de ce facteur émotionnel. Il y a donc un ultra-humain. Je veux dire qu'après la phase humaine individuelle, il y a aux yeux de Théiard une phase différente d'évolution de l'humanité qui est une phase collective. Et bien sûr, il est conscient, et il en parle, des tâtonnements de collectivisation qui ont eu lieu, du mécontentement que ça a pu causer, des maladresses qu'on a pu faire. Mais il nous dit « je ne vois pas d'autre issue que cela ». Bon. Je quitte maintenant la perspective théiardienne qui est directement issue. Il faut bien voir que Vernadsky, Leroy, Théiard, c'est une seule pensée. Vernadsky a complètement accepté la perspective de Leroy et Théiard. Il a repris à son compte la noosphère. Il a dit qu'elle est dans la continuité de la biosphère. Et c'est ce que disent les deux autres. Tout ça est dans la continuité de la même évolution. Et quand on dit que c'est dans la continuité de la même évolution, en même temps, on dit « je peux me tromper » et puis « vous êtes libre de faire la grève », mais on dit « il y a quelque chose aussi qu'on ne peut pas empêcher, il y a quelque chose d'irrésistible dans cette évolution ». Je vais maintenant, et ce sera mon deuxième point, essayer de mettre en perspective quelques alternatives à l'hypothèse de la noosphère. Je dis c'est un concept qui se cherche, un concept qui est encore flou. Et en réalité, il y a beaucoup d'alternatives au concept de noosphère, en philosophie politique d'abord, en philosophie des sciences aussi. Je mentionne dans le document la tentative de Kant au moment de la Révolution française. Cette tentative de Kant qui s'est concrétisée dans le petit opuscule « Projet de paix perpétuelle », écrit par Kant et publié par lui en 1795, un peu remanié, republié par lui en allemand déjà en 1796, parce que ça s'est vendu comme des petits pains. Et pourtant, il faut voir que Kant, il était à Königsberg, c'est-à-dire à Kaliningrad, c'est-à-dire très très loin vers l'Est. C'est ce qui est devenu une enclave russe dans l'Union européenne maintenant, hein, sur la mer Baltique. Le projet de paix perpétuelle de Kant a été traduit en français presque aussitôt écrit, en 1996, et on sait que il a été communiqué aux révolutionnaires de la Convention que des réfugiés allemands à Paris ont essayé d'attirer l'attention de Sieyès sur ce mémoire. Ils ont essayé même de mettre Sieyès en contact avec Kant, mais ça n'a pas marché. Il semble que les Jacobins avaient d'autres préoccupations. Mais l'ambassadeur français auprès des villes hanséatique a contribué lui aussi, il a donné une traduction simplifiée parce que Kant, c'est le, Bon, c'est de l'allemand et c'est l'allemand de Kant, c'est un peu lourd. Donc Reinhardt a donné une traduction plus légère. Et à propos de cette petite recherche, j'ai découvert que le mot sociologie, dont on attribue la création à Auguste Comte, a été en fait inventé 50 ans avant Auguste Comte par Sieyès, le révolutionnaire. Et ça, cela a été... C'est un article d'un historien qui est paru dans la Revue d'Histoire des Sciences Humaines il y a 2 ans, de 2006, et qui le montre parce qu'on a retrouvé les manuscrits de Sieyès. Alors, bien sûr, c'était resté des manuscrits, donc personne ne le savait. Sieyès est l'ancêtre du Conseil constitutionnel, de l'idée d'un Conseil constitutionnel. Donc, il y avait des idées qui circulaient au moment de la Révolution française, et parmi ces idées qui circulaient, l'idée d'une paix perpétuelle. L'idée d'une paix perpétuelle qui s'établirait comment ? Eh bien, par une sorte de mondialisation. La manière dont Kant concevait cela, c'était de... faire sur toute la Terre, vous avez des États. Vous ne les unissez pas en un seul État mondial. Kant pensait que ce serait une grosse erreur d'avoir un seul État mondial. Vous avez des États, vous faites une fédération d'États libres et vous faites passer entre ces États l'acceptation d'un droit cosmopolitique qui assure en particulier les conditions de l'hospitalité, c'est-à-dire qui assure que tout le monde peut voyager dans tous les pays ou s'établir dans un pays ou dans l'autre librement. C'est l'accueil, c'est le droit d'asile. Et nous sommes encore loin de remplir là, les obligations que Kant voulait donner aux États. Une autre tentative est celle d'Auguste Comte dans le système de politique positive. C'est tout un système, donc je ne vais pas entrer dans le détail. Mais Comte a détaillé minutieusement ce qu'il appelle le programme de la régénération universelle, c'est-à-dire la substitution à des états de droit divin, d'états de droit humain, c'est-à-dire des états où on a le culte de l'humanité, au lieu d'avoir le culte d'un dieu qui est ailleurs. Et le programme, vous le connaissez, le programme d'Auguste Comte, c'est l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Mais il a de façon extrêmement précise prévu les étapes de l'avènement de cet ordre mondial. Et cet ordre mondial a connu des commencements de réalisation dans un certain nombre de pays. Voilà, donc il y a des analogues ou des répondants à la notion de communauté humaine en philosophie politique et elles sont nombreuses. Il y a aussi le modèle scientifique, le modèle des communautés scientifiques. On dit la communauté scientifique, on dit souvent la communauté scientifique. Pour l'instant, il est peut-être préférable de dire les communautés scientifiques, par discipline, par spécialité. Mais c'est sûr que les communautés scientifiques donnent un modèle de ce qu'on peut appeler un travail collectif harmonieusement organisé. J'ai fait de mes notes. Lorsque nous avons écrit le livre Philosophie des sciences, nous nous étions posé la question de la manière dont se constitue une communauté scientifique et de la manière dont elle peut travailler de façon fiable alors que ses membres sont divers, ses membres sont comme vous et moi, très, très inégaux. Je veux ici, parce que c'est plus proche de la manière dont Teilhard et Leroy ont imaginé la chose, je veux ici surtout centrer l'attention sur ce que dit Simondon du passage au collectif et ce qu'on dit Carlotto appelle. Gilbert Simondon a soutenu son doctorat d'État en 1958. Il avait 34 ans, c'était remarquable pour un doctorat d'État. Et ce doctorat d'État était composé de deux grands ouvrages, l'un sur les objets techniques et l'autre sur l'individuation. Ces ouvrages ont attiré l'attention et il a été élu professeur à la Sorbonne à l'âge de 39 ans. Je l'ai bien connu à cette époque-là. Mais il a eu des ennuis avec la publication de sa thèse. Ou plus exactement, l'ouvrage du mode d'existence des objets techniques a été publié tout de suite, en 1958, l'année de la soutenance, et a eu un très gros succès. Mais l'ouvrage sur l'individuation, qui en fait s'intitulait « L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information », c'est un gros ouvrage. Cet ouvrage n'a pas trouvé preneur tout de suite, et lorsque les presses universitaires de France ont finalement accepté de le publier, elles n'ont pris que la première moitié. Donc on a eu en 1964 un livre publié au PUF qui ne donne que les deux premières parties alors que la thèse en avait quatre. Et puis on avait rajouté l'introduction et la conclusion. Mais on avait coupé les parties 3 et 4. Un de nos collègues, François Laruelle, s'est beaucoup démené pour faire publier l'autre moitié. Et finalement, en 1969, les éditions Aubier, mais ce n'était plus les PUF, ont accepté de publier l'autre moitié sous le titre « Individuation psychique et collective ». C'est ça, c'est cette moitié-là qui m'intéresse. Et la publication de cette seconde moitié a redonné l'introduction et la conclusion. Et puis un article en plus, en prime. Finalement, en 2005, les éditions Millon à Grenoble ont donné la thèse entière. C'est un très gros livre, cette fois avec en prime des ajouts à la thèse, une histoire du concept d'individu, c'est-à-dire les notes que Simondon avait prises systématiquement pendant qu'il préparait sa thèse sur l'histoire de l'individu, plus compléments, suppléments. Dans cette thèse sur l'individuation, superficiellement vue, Simondon se bat contre Aristote ou contre Démocrite, contre la philosophie ancienne, qui a dit qu'on doit accepter comme principe premier il existe des individus, les individus sont un donné, et qui a ajouté, en ce qui concerne Aristote, les individus sont un composé de matière et de forme. Simondon tique là-dessus en disant que dans ce schéma, l'individu étant composé de matière et de forme, il y a un point obscur, c'est comment la matière s'imprime dans la forme, ou comment la forme s'imprime dans la matière, ou comment la matière rentre dans la forme. Ça, il n'explique jamais. Bon. Simondon, lui, va se centrer sur ce point obscur et sa thèse à lui proclame qu'il n'y a pas des individus, il y a des processus d'individuation, et ce qu'on appelle un individu, c'est le résultat, à un moment donné, d'une individuation. Mais l'individu est perpétuellement en train de s'individuer de nouveau. Donc l'individuation est le processus fondamental, ce qui veut dire que Simondon a une philosophie du devenir. Simondon, un petit peu comme Teilhard, distingue des étapes ou des plans différents, bien que sa formation à lui soit plutôt technique et scientifique et pas du tout en paléontologue. Simondon nous dit il y a des niveaux d'individuation. Vous avez l'individuation physique, dont le processus paradigmatique est la cristallisation. C'est l'exemple type d'une prise de forme dans le monde physique. Vous avez des individuations biologiques, dont l'exemple type, c'est le développement embryonnaire. Au cours du développement embryonnaire, il y a prise de forme, individuation d'un être. Il nous dit qu'ensuite, on doit considérer l'individuation psychique de cet être qui est biologiquement individué. Et à l'individuation psychique se superpose une individuation collective. Donc, j'ai cité les quatre parties de la thèse. Individuation physique, biologique, psychique, collective. Simondon parle aussi d'individuation technique. Les objets techniques émergent par un processus d'approximation successive, de tâtonnement, qui est analogue au processus d'individuation biologique ou autre. Maintenant, je regarde plus particulièrement ce qu'est une individuation collective. Là-dessus, Simondon reprend la distinction de la sociologie américaine sur les différences entre les groupes. Vous avez le in-group et le out-group. Bon. Le in-group, j'en suis. C'est mon groupe ou l'un de mes groupes. Le out-group, c'est les autres. Et il y a une personnalité de groupe. Par exemple, vous venez d'être admis étudiant à Sciences Po. Vous entrez dans un groupe, vous sentez très bien, il y a une personnalité de groupe et maintenant vous en êtes. Vous en êtes. Vous n'êtes plus comme ces gens qui sont restés dans les classes prépa. Vous en êtes. Vous en êtes, mais vous allez en même temps la constituer, cette personnalité. Comme membre du groupe, vous allez influer sur la personnalité de groupe. Donc, l'analyse de Simondon commence par être psychologique. En entrant dans le groupe, on acquiert un esprit du groupe, mais en même temps, on contribue à la création permanente de cet esprit du groupe. Il y a, si vous voulez, coévolution entre le groupe et les membres. La relation au groupe, d'après Simondon, n'est pas inter-individuelle, elle est trans-individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le transindividuel, nous dit Simondon, traverse les individus. Et il nous dit encore, le psychosocial est du transindividuel. Le groupe n'est pas fait de relations de 1 à 1. Ça peut être ça aussi. Le groupe, entrer dans le groupe, avoir l'esprit du groupe, ce n'est pas faire de l'entraide, bien que les membres du groupe puissent secondairement, bien sûr, s'entraider. Mais ce que les membres du groupe partagent, ce par quoi ils communiquent, c'est, dit Simondon, des significations. Et les significations sont ce qui donne un sens au fait d'être du groupe. Perspective de carrière, si vous êtes à Sciences Po, style Sciences Po, etc. Culture commune, exigences de travail, idéaux sociaux, etc. Vous partagez des significations qui sont portées par une conscience collective implicite. Implicite et que chacun ressent à sa manière ou illustre à sa manière ou possède à sa manière. Alors, cet élément collectif qui est partagé et qui traverse les individus n'est pas constamment ressenti. C'est-à-dire chacun a sa vie psychique à soi, ses soucis, ses chagrins d'amour et tout. Mais par moments, le collectif est ressenti par tous les individus ensemble, ça prend, par moments, les individus se sentent ensemble, et ce sont des moments d'émotion collective que Simondon considère comme émotions structurantes. Pour Simondon, rien ne se fait sans émotion. La participation du phénomène émotionnel au groupe est toujours quelque part, même les groupes les plus racines. Il y a donc une personnalité de groupe qui est faite à la fois de représentation ou de signification commune et d'une émotion partagée au moins par moment. C'est une façon d'être, c'est un ethos que l'individu acquiert en commun avec d'autres en participant à un groupe. Simondon, en fait, reprend, après avoir analysé la participation de l'individu au groupe, c'est-à-dire le passage du psychique au collectif, Simondon reprend alors la problématique bergsonienne développée dans le livre « Les deux sources de la morale et de la religion » et je peux dire qu'en fait, dans cette leçon, nous avons toujours cette problématique bergsonienne à l'arrière-plan. Bergson avait dit qu'il y a une différence entre les sociétés closes et les sociétés ouvertes. Et Simondon nous dit qu'on peut appartenir à plusieurs groupes, que nous appartenons tous à plusieurs groupes, en fait, que les groupes peuvent être plus ou moins fermés ou plus ou moins ouverts les uns sur les autres, que les groupes peuvent s'agresser, et le doute qui était celui de Bergson, qui était le doute sur la possibilité d'une société globale, c'est-à-dire de réunir tous les groupes en un seul groupe planétaire, est un doute que, à première vue, Simondon n'envisage pas, mais en réalité, il l'a très profondément pensé. À première vue, Simondon n'envisage pas le problème d'une formation sur la Terre d'une seule société humaine unifiée, parce que il estime que les groupes se font et se défont constamment, qu'il y a des opérations individuantes, des processus d'individuation, et puis ça marche un certain temps et puis ça retombe. Et il n'y a, selon lui, dans le monde vivant, psychiquement ou socialement, aucune tendance à faire émerger une société mondial, c'est-à-dire un groupe unique qui comporterait tous les groupes qui se sont ouverts sur lui. Simondon n'est d'ailleurs pas profondément évolutionniste, à première vue. Ce n'est pas dans son horizon. À seconde vue, pourtant, Simondon suggère que pour forger un collectif global, la voie de l'individuation telle qu'il l'a décrite n'est pas la bonne, n'aboutit pas, ne peut pas aboutir. Et on trouve cela développé en particulier dans la note complémentaire que l'éditeur a rajoutée à la fin du livre après la publication de la thèse tout entière. Cette note comporte deux parties, et la première, c'est valeur relative et valeur absolue. Simondon dit que, au fond, on peut partager les cultures de groupe en deux grandes catégories, entre lesquelles d'ailleurs les groupes oscillent. Il y a une culture civique du groupe et une culture religieuse du groupe. La culture civique tend à sacrifier l'individu à la cité, au groupe. Conscription, service militaire, vous avez des obligations envers la société et peu importe vos intérêts personnels. Et la culture religieuse du groupe a tendance à privilégier l'individu et ses propres besoins. C'est Antigone. Antigone qui dit moi, j'ai une éthique différente de l'éthique sociale. Moi, je revendique ma liberté. Je cherche mon salut personnel et pas le salut de la société. Et à ce point, Simondon dit, on est là dans une impasse. Les groupes resteront des groupes limités. Nos sociétés sont des sociétés limitées, elles ont leur éthique particulière, et d'un groupe à l'autre, il y a toujours des mésententes, des choses qui, quand on sent bien quand on voyage et qu'on change, qu'on s'enracine, mettons, on est allemand et on va habiter en Grèce. On sent qu'on change de culture, on change de valeur, on change de manière de se représenter la vie. Et ça, c'est comme ça. Et ces manières qui sont des individuations locales, collectives, ces manières-là évoluent, mais elles ne semblent pas évoluer vers la convergence complète de toutes les manières d'être en une seule. C'est même, on le dit, pas souhaitable. Il faut conserver la diversité. L'ouverture, d'après Simondon, se fait par la médiation de la technique. L'ouverture sur une culture universelle ou sur des points de rencontre entre toutes les cultures se fait par la médiation de la technique. La technique, nous dit-il, relativise les significations culturelles en les confrontant à la réalité naturelle. Et il donne l'exemple d'inventions technologiques comme il ne donne pas cet exemple-là, mais je crois qu'il est éclairant, la greffe cardiaque que Simondon a connue. Il donne le chirurgien comme le technicien qui va être transculture. Et il pense apparemment au docteur Barnard, le Sud-Africain, qui un jour a greffé le cœur d'un noir sur un blanc ou d'un blanc sur un noir, je ne sais plus, mais enfin, qui a fait quelque chose de techniquement réussi et qui allait contre un certain nombre d'impératifs moraux dans certaines cultures. Prélever un cœur sur quelqu'un qui est en train de mourir, mais alors que le cœur bat encore. Pour un Japonais, c'était une chose épouvantable. On empêchait la personne de mourir jusqu'au bout. Et néanmoins, cette technologie, une fois qu'elle a été au point, a gagné l'ensemble de la Terre. Et on fait maintenant des transplantations cardiaques, même au Japon. Donc ça allait contre des préjugés d'un certain nombre de cultures, mais ça a convaincu par la confrontation au réel. On a sauvé quelqu'un, alors qu'un autre était en train de mourir, on ne l'a pas laissé complètement mourir, mais il était destiné à mourir de toute façon, on en a sauvé un autre. C'est quelque chose qui a frappé par sa justesse. Et à la fin du livre sur l'objet technique, Simondon dit qu'on a prétendu, qu'on prétend encore souvent, qu'on prétend encore à propos de Google et de l'Internet, que la technique a servi l'homme. Et il dit, c'est le contraire, la technique libère l'homme, ce qui a servi l'homme, c'est la société. Ce sont les représentations sociales, les organisations sociales qui sont susceptibles d'asservir, et la technique est libératrice, bien sûr quand on sait l'utiliser, mais la technique, en mettant nos préjugés à l'épreuve de la réalité naturelle, elle rapproche les hommes appartenant à des cultures différentes, elle les rapproche et les fait converger. Donc Simondon ne dit pas nous sommes en train de constituer la noosphère. Non. Mais il pense à l'arrière-plan que si nous cultivons cette manière d'être du technicien, cette manière d'être du scientifique qui est en contact avec la réalité naturelle telle qu'elle est, nous progressons dans au moins la tolérance mutuelle entre des cultures ou des préjugés différents. Ça, c'est la conceptualisation de Simondon. Je dis quelques mots de celle de Carl Otto Appel. Appel, 1967, la fin des Trente Glorieuses, un moment d'expansion économique où on a développé toutes sortes de sciences, technologies, d'armement aussi. Un moment où l'interdépendance des nations est devenue plus visible à cause de la circulation des biens des gens. Et ce qui frappe Appel, c'est que les morales restent cloisonnées. Que même à l'Organisation des Nations Unies, on est dans un dialogue de sourds. On aurait besoin, nous dit Appel, d'une éthique universelle qui réponde à l'universalisation de la circulation des biens, de la finance et tout ça. On aurait besoin de se mettre à niveau, moralement, de cette globalisation matérielle, pour ainsi dire. Pourquoi dit-il que la situation apparaît désespérée ? Parce que on en est encore à avoir deux blocs sur la Terre. À l'Est, on est en marche vers la société sans classe, on a la bonne doctrine et ça ne souffre pas de discussion, donc on n'est pas prêt à réfléchir sur une autre morale. Et à l'Ouest, la doctrine régnante, c'est la séparation entre la vie publique et la vie privée. Les affaires, l'industrie, les transports, la science, la technologie, tout ça, c'est dans le domaine public, c'est objectif et c'est axiologiquement neutre. La morale, c'est subjectif, c'est dans la sphère privée, c'est mes opinions. Je ne veux pas qu'on vienne regarder dedans et je ne tiens pas à connaître celle des autres. Comment ? Mais nous vivons tout de même dans des démocraties avec un contrat social qui nous fait partager des valeurs. c'est pas tout à fait ça, nous dit Apple, parce que dans une démocratie, si on a un choix à faire qui touche à des valeurs morales, on met au vote. C'est-à-dire que chacun exprime sa propre préférence morale, qui est d'ordre privé, qui n'a pas à justifier, et on prend comme ligne directrice le résultat du vote majoritaire. Donc on n'a pas de discussion sur les valeurs morales. Ce que Apple essaye de promouvoir, c'est le passage dans la sphère publique de la discussion sur les problèmes de morale ou d'attitude de vie. C'est-à-dire, il essaye d'instituer une plus grande transparence de ce qui restait dans la sphère privée. Il nous dit, la communauté morale est une communauté d'argumentation. Vous devez toujours pouvoir expliquer aux autres pourquoi vous pensez qu'il faut faire comme ça plutôt que comme ci. Vous devez toujours pouvoir soumettre au jugement des autres et à la discussion vos raisons d'agir. Bon, bien sûr, dans la réalité, vous n'aimez pas toujours révéler vos raisons d'agir et il vous arrive de mentir, de dissimuler. Bon, et Apple reconnaît qu'il n'est pas tout à fait kantien. Kant disait « vous ne pouvez pas vouloir mentir parce que si vous mentez, c'est-à-dire si vous posez qu'on a le droit de mentir, vous détruisez même votre mensonge, puisque si la loi, si la règle morale, c'est qu'on peut mentir, à ce moment-là, personne ne croira plus personne. Donc pour pouvoir mentir efficacement, il faut poser qu'il y a une règle absolue, on ne doit pas mentir. Apple dit, quand c'était Kant, il faut bien voir qu'il y a la moralité idéal et la moralité réelle. Autrement dit, Apple, c'est Kant qui a lu Peirce, très exactement, qui est devenu un peu pragmatique. Et donc, l'idéal, c'est que vous ne fassiez, que vous vous conduisiez de telle sorte que votre conduite soit entièrement rationnelle et que vos mobiles soient transparents. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, mais si on vous demande des comptes, vous devez être capable de justifier ce que vous avez fait. Et la discussion morale est à peu près contemporaine, la discussion morale, l'intérêt pour les questions de casuistique en morale, etc., est à peu près contemporaine de la réflexion de Apple. Cette entreprise de Apple est pour montrer que nous avons au moins une chose en commun, c'est ce fait que nous sommes une espèce qui communique et nous devons nous plier à cette règle de la communication. Nous devons pouvoir rendre des comptes toujours de ce que nous faisons. J'en arrive maintenant, puisque nous venons de parler avec Simondon des bienfaits de la technologie, à mon troisième point, qui concerne le problème de la communauté humaine au regard de ce qui est en train de se développer, l'Internet, les moyens de communication qui réunissent par une toile couvrant toute la Terre, l'ensemble, enfin au moins potentiellement, l'ensemble des êtres humains. Je remarque d'abord que, d'une part, ces idées sont dans l'air. Nos collègues de l'Institut du monde contemporain, au Collège de France, ont eu, il y a quelques mois, un colloque sur la sagesse collective, au cours duquel on réfléchissait sur l'éventuelle supériorité cognitive et morale d'un groupe sur les individus qu'il compose. Et d'autre part, si vous parcourez un petit peu la littérature Internet, vous voyez que, soit sous sa version faible des organisations internationales, diverses agences de l'ONU comme l'OMS, l'UNESCO, etc. Soit sous sa version forte, le fantôme de Big Brother, les Américains qui dominent sournoisement la Terre et qui ont asservi tout le monde, les complots qui se trament. On imagine un seul cerveau qui est en train de dominer l'ensemble de la Terre. Bon. Donc, ces idées courent un peu partout. L'idée que quelque chose de planétaire s'institue, et en particulier grâce à l'Internet. Alors, j'ai prévu trop de choses. Je passe sur un certain nombre de choses que je voulais dire, mais j'avais décidé de ne pas parler du tout de l'affaire Google, puisque Google a été interprété par certains de nos collègues comme la tyrannie des États-Unis sur le reste du monde, hein, et une réincarnation de M. Bush. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais je vais entrer dans un débat qui concerne Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, encyclopédie gratuite, modifiable par tout un chacun, et développée, si je ne me trompe, en 200 langues différentes. On a vu émerger depuis quelques années, c'est très récent, un collectif qui produit de la connaissance sans être un collectif d'experts. On connaît par ailleurs les collectifs qui produisent de la connaissance et auxquels je faisais allusion tout à l'heure, qui sont les groupes scientifiques, hein, les unités de recherche, les sociétés scientifiques, les sociétés savantes. Bon, ça, on sait comment ça marche, mais c'est limité à des experts. Hein. Tandis que ce qui est en train d'émerger avec Wikipédia, c'est un organisme producteur de connaissances qui n'est pas constitué par un groupe d'experts. Bien qu'il puisse y avoir, il n'exclut pas les experts, puisse y avoir des interventions d'experts. Il y a d'autres tentatives du même genre, mais qui ratissent moins large. Il y a le système GNU Linux, dont le noyau est Linux, qui est un système concernant les logiciels libres, la création de logiciels libres et l'échange de logiciels libres. Et c'est un collectif mondial qui est relativement considérable, hein, où des milliers de gens coopèrent et des milliers d'ordinateurs. Vous avez aussi SETI. SETI, c'est le Search for Extraterrestrial Intelligence, des millions d'ordinateurs connectés via l'Internet dans l'attente de signes venant de l'espace et qui nous révèlent l'existence d'autres êtres intelligents dans le cosmos. Et puis vous avez Yahoo Answers, ça c'est beaucoup plus banal, questions-réponses, hein, un site sur lequel, de personne à personne, on peut s'échanger toutes sortes de questions et de réponses. Mais Wikipédia est particulièrement intéressant parce que Wikipédia progresse. C'est véritablement un phénomène émergent. Il y a un numéro spécial de la revue Épistémée que Vincent Guillaume a fait connaître et qui est tout récent, qui traite épistémologiquement de la question de Wikipédia, et j'en retiens ceci. Nous avons, avec cette encyclopédie mondiale en cours de constitution, une révolution dans la manière de produire et de disséminer la connaissance. L'encyclopédie Wikipédia est une encyclopédie égalitaire où il n'y a pas d'un côté les experts qui vous délivrent le savoir et de l'autre côté les récepteurs du savoir qui n'ont rien à dire qu'à gober. Dans Wikipédia, vous pouvez être l'auteur d'un article, vous pouvez aussi vous renseigner sur beaucoup de choses dans d'autres articles. Vous pouvez être à la fois l'auteur et le consommateur. Wikipédia, d'autre part, est une encyclopédie bottom-up, de bas en haut. C'est-à-dire, c'est la communauté humaine tout entière qui est appelée à contribuer à la construction et à l'amélioration de cette encyclopédie. C'est une vraie gifle à des tentatives comme l'Encyclopédia Britannica, qui d'ailleurs a protesté vigoureusement contre cette concurrence déloyale, puisque quand vous cherchez sur Internet, vous tombez sur un article de l'Encyclopédia Britannica, il faut payer. Tandis que vous tombez sur, à propos exactement de la même entrée, l'article de Wikipédia est gratuit. Ben seulement, Encyclopédia Britannica a dit « Oui, mais nous, nos articles, ils sont bons et ils sont fiables. » Tandis que sur Wikipédia, vous trouvez des horreurs. Eh bien, les études qui ont été faites semblent montrer que même si la qualité est inégale sur Wikipédia, les progrès faits dans les dernières années mettent Wikipédia à un taux d'erreur un peu supérieur à l'Encyclopédie britannique, mais de très peu. Ah, parce qu'il y a des erreurs dans l'Encyclopédia Britannica. Aïe. Est-ce que cela remet complètement en question la compétence des experts? En fait, non. Si on regarde bien les choses, les personnes qui contribuent à Wikipédia ou bien sont des experts, ou bien cherchent chez les experts ce qu'ils ont dit et recopient. Donc c'est au pire... c'est rarement des inventions complètes. C'est quelquefois des insanités, mais il y a un filtre sur Wikipédia tout de même. Les insanités sont retirées très vite. Et le taux d'erreur n'est vraiment pas affolant. La rédaction n'est pas toujours élégante, mais la qualité des informations n'est pas si mauvaise que ça. Maintenant, sur la véritable fiabilité, il y a toute une discussion dans ce numéro épistémé et on discerne dans cette discussion deux tendances. Une tendance est de dire ce qu'on trouve dans Wikipédia, ça relève du témoignage et non pas de la science. C'est-à-dire, la personne qui va constituer ou contribuer à un article Wikipédia a vu ou entendu les informations et elle les rapporte. Donc c'est du expert de seconde main. C'est fragile, c'est un peu comme la différence dans le procès Colonna entre les témoins qui disent « je le reconnais » ou bien « j'ai jamais vu cette personne, non, je ne le reconnais pas ». Bon, ça, c'est le témoignage. Et on sait à quel point le témoignage est peu fiable. Tandis que l'expert balistique, dans le procès, il dit « il est impossible que la balle ait été tirée d'une telle hauteur ». Bon, ça, c'est scientifique. C'est le témoignage d'expert. Ce qui aggrave le cas En ce qui concerne la fiabilité de Wikipédia, c'est que les auteurs sont anonymes, qu'ils ne sont pas sanctionnés s'ils mettent des erreurs, et qu'ils ne sont pas non plus payés, et donc ils ne sont pas encouragés à améliorer la qualité. À supposer que le paiement l'encourage. Voilà une tendance. Une tendance, c'est de dire c'est tout de même seconde main témoignage, c'est pas expertise. L'autre tendance, c'est il faut apprendre à l'utiliser. Ce n'est pas une encyclopédie comme l'Encyclopédia Britannica. Ce n'est pas non plus un livre d'experts, mais celui qui consulte Wikipédia le sait. L'encyclopédie, quand vous faites une recherche sur un thème, c'est votre point de départ, ce n'est pas votre point d'arrivée. Ça vous donne des idées, mais ce n'est pas votre référent principal. L'un des créateurs de Wikipédia avait dit d'ailleurs on ne doit jamais citer une encyclopédie, pas plus Wikipédia que d'autres d'ailleurs, pas non plus l'Encyclopédie britannique. On ne cite pas une encyclopédie, ce ne sont pas des travaux d'experts, il faut le savoir. C'est toujours un peu des synthèses de seconde main. D'autre part, on nous dit, dans cette seconde position, quand vous regardez un article de Wikipédia, vous avez des liens qui peuvent vous envoyer sur d'autres sites où vous allez avoir des informations complémentaires. Et vous devez vérifier, vous devez aller voir sur les autres sites. C'est une incitation à la recherche. Ce n'est pas une recherche arrêtée. J'ajouterais personnellement qu'à mon avis, la grande utilité de Wikipédia, ce n'est pas qu'elle est une initiation pour les débutants, ce n'est pas là qu'il faut aller apprendre son histoire de la philosophie, vraiment pas. Mais c'est un aide-mémoire pour les experts, un remarquable aide-mémoire pour les experts. Et ça, c'est un peu ennuyeux, parce que ce que je dis est une limite à l'affirmation que Wikipédia, c'est la démocratie complète. Ce n'est pas la démocratie complète, je pense qu'on apprend mal dans Wikipédia. Ce n'est pas pour les débutants, ce n'est pas pour des gens qui ne connaissent rien sur un sujet. Si vous ne connaissez rien du tout sur un sujet, ce n'est pas là que vous allez apprendre. Mais si vous connaissez déjà sur le sujet et que vous avez oublié quelque chose ou vous n'avez pas correctement établi les liens, alors là, ça va vous aider. La dernière question posée dans Épistémé, c'est où est-ce que tout ça nous mène ? Où est-ce que nous mène Wikipédia ? Où est-ce que nous mène le web d'une façon générale ? Quel est l'avenir de la chose située dans l'espace de l'avenir humain ? Et j'ai lu dans les articles mentionnés, je vous en ai cité un morceau, un papier de Floridi qui compare deux évolutions du World Wide Web. L'évolution vers le Web 2, qui est dans le sens Wikipédia, et l'évolution vers le web sémantique. Cette comparaison est très intéressante. Alors, ce qu'on appelle le web 1, c'est le web tout simple. J'appelle une entrée, je trouve de l'information, éventuellement je peux commander un livre ou commander un objet, copier des choses de cette information, mais j'ai juste un rapport à l'information. Le web 2, c'est le web participatif. C'est Facebook, si vous voulez. Le web 2, ou Wikipédia, c'est un web sur lequel on peut contribuer à créer des réseaux utilisant les éléments du web 1. Et le web sémantique, ce serait, et il semble qu'il y ait un grand projet actuellement de création de web sémantique, le web sémantique, c'est le web qui se mettrait à penser lui-même. Je simplifie. Mais c'est un web qui se mettrait à organiser la connaissance. La connaissance sur le web, elle est en petits morceaux. Et vous pêchez des petits morceaux à droite, à gauche et un peu au hasard. Et avec les liens, vous passez d'un morceau à l'autre, mais les liens sont quand même très lâches. Un web sémantique serait un web qui se réorganise mieux. Un web qui trouve les bons liens entre ces éléments de connaissance, qui groupe les données, qui les classe, qui attribue des valeurs. Et ce web sémantique, en dépit de l'ambition d'un certain nombre de gens qui, semble-t-il, sont attelés à la tâche de le construire, l'auteur de l'article que je mentionne, Floridi, annonce que le seul moteur intelligent que nous ayons actuellement, c'est nous. Le seul organisateur correct de connaissances que nous ayons, c'est nous, le meilleur de très loin sur la machine. Et l'auteur de cet article dit qu'à son avis, le web sémantique aura le même sort que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire... Alors, j'ai connu cette évolution en médecine et je confirme que c'est bien ce qui s'est passé. En médecine, au moment où l'intelligence artificielle a commencé de se développer, on a dit « Oh, mais le raisonnement du médecin, c'est drôlement intéressant. On va l'analyser et puis on va programmer des machines pour raisonner comme les médecins. » C'est-à-dire on va programmer des machines qui soient capables de faire un raisonnement diagnostique. Des machines, on va leur donner une base de connaissances, c'est-à-dire qu'on va leur donner les noms des maladies, la fréquence des maladies, les signes qu'on observe dans chaque maladie, la fréquence des signes dans chaque maladie. Bon. Ensuite, les malades arriveront devant la machine et en tapotant sur le clavier, ils vont dire quels sont leurs signes et la machine va trouver le diagnostic. Ça va nous épargner beaucoup de médecins, ça. Et un certain nombre de machines diagnostiques ont été réalisées effectivement. À Leeds, en Angleterre, par exemple, il y a eu une machine tout à fait performante qu'on a mise en compétition avec les médecins à un moment donné. Et la machine se tenait très, très bien. Bon, mais ce genre de programme construit dans un hôpital, adapté à une communauté de patients particulière, n'a marché très bien qu'au sein de cette communauté, dans cet hôpital. Et quand on a voulu transporter ce type de projet à Colombes, par exemple, à Colombes, France, banlieue parisienne, et qu'on a voulu faire fonctionner le même programme, la machine déraillait complètement, la machine faisait de très mauvais diagnostics. Pourquoi ? Eh bien parce que la fréquence des signes n'était pas la même à Colombes qu'en Angleterre. Parce que, alors que, je me souviens, ça m'avait frappé, en Angleterre, l'occlusion intestinale, non, l'appendicite, les gens deviennent tout rouges. À Colombes, quand les gens ont l'appendicite, ils ne deviennent pas du tout tout rouges. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, quand un médecin déménage d'un endroit à un autre, il y a un moment d'adaptation. Il doit s'habituer au type de pathologie de sa nouvelle communauté. Il doit apprendre sur le tas. Mais la machine, il faut le lui apprendre et on a abandonné la tâche d'enseigner aux machines. C'est beaucoup trop long. Pour l'instant, le diagnostic le meilleur, loin d'être parfait, qu'on puisse avoir, c'est encore le cerveau du médecin. Bien, on peut penser que le World Wide Web restera le véhicule de l'information, un admirable véhicule d'information, mais que ça devienne le cerveau de l'humanité, c'est très, très douteux en l'état actuel des choses. Donc ce n'est pas là qu'il faut chercher le cerveau de l'humanité en cours de formation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.